dans le privé. Pourquoi? Pour écarter de nouvelles forces syndicales. Mais vous savez, on sera toujours là de toute façon. Ça sera plus difficile pour nous, c'était déjà difficile ces dernières années. Mais si on ne nous veut pas à la table, eh ben on sera dans la rue. Mais c'est quand même dommage. Donc il faut que le MEDEF et le gouvernement arrêtent d'essayer de choisir ses interlocuteurs. C'est pas comme ça qu'on fait du syndicalisme et du dialogue social.
Merci Jean-Michel Natanson. Demain, Météo France prévoit une dégradation nuageuse sur le nord et une certaine instabilité au sud avec des températures maximales toujours agréables de l'ordre de 19-24 degrés. À 22h sur France Culture, le prochain journal vous sera présenté par Jean-Louis Rimond. Tout de suite, on retrouve Jean Lebrun, travaux publics en direct d'El Sour, et on parle, Jean, ce soir des langues menacée de la disparition des langues.
Bonsoir. Exactement, nous sommes sous les pales du ventilateur d'El Sour au 35 boulevard Saint-Germain à Paris, et nous sommes au lendemain de l'inauguration de la fondation Chirac. Alors on sait que la fondation Chirac va s'occuper de l'accès aux médicaments, des questions relatives au partage de l'eau, et puis va essayer de contribuer au maintien des langues, vous le disiez, Florence Turne, menacées ou en voie de disparition. Allez, juste un instant, parce que je crois qu'on ne l'a pas entendu hier à France Culture, l'ancien président de la République. Ce n'est pas un extrait de son discours que Valérie Beaumont, ici présente, a trouvé, comment dire, solennel ?
Disons atemporel.
C'est une manière de dire que les ex sont dans l'immortalité. Non, c'est pas un extrait de son discours d'hier au théâtre Lévi-Strauss du musée des arts premiers, des musées du Quai Branly. C'est un extrait du site de la Fondation Chirac, fondationchirac.eu.
Un homme politique ayant eu des responsabilités a servi d'une certaine façon au gouvernement, à la tête de l'État ou d'autres façons. Et puis, à un moment donné, il doit tout naturellement essayer de donner son expérience, qui a été accumulée généralement longtemps, au service de l'ensemble d'une population. Et c'est ce que j'appelle servir autrement.
Servir autrement, un exemple de reconversion, Jacques Chirac. Alors pour parler ce soir de la manière dont se développe la dynamique d'extinction de nombreuses langues, il y en a peut-être 6 ou 7 000 à travers le monde et beaucoup sont menacées, de la manière dont on peut mettre en place une dynamique de réveil, alors nous avons deux dames qui sont des exemples, elles aussi, de reconversion. Par exemple, Rosane Miline. Bonsoir, Rosane Miline.
Bonsoir.
On vous a quitté dans une émission où on avait pris la défense de TV Braise. C'était dans une librairie de Lorient.
Je ne suis pas sûre que c'était la défense.
Vous aviez à l'époque beaucoup de difficultés avec cette chaîne que vous aviez animée. Et alors, qu'est-ce que vous êtes devenu depuis ?
Eh bien, à partir du moment où cette chaîne n'était plus une chaîne bretonne, puisque c'était l'objectif de départ, à partir du moment où elle allait changer de cap, j'ai moi aussi changé de cap et je les ai laissés à leur série américaine et je suis partie pour la Chine, voilà.
Ouais. Enfin, il y a encore un petit peu de breton sur TV Brest, par exemple. Il y a un feuilleton qui se passe dans un bar, ça s'appelle Kenavo Bar.
Non.
Ça veut dire au revoir, et PPDA en est un des héros, par exemple. Non, c'est pas ça?
Je crois pas, non. Non. On ne va pas parler de la même chaîne.
Dites-moi, vous étiez en Chine, après TV Braise, après Lorient, et alors vous voilà maintenant à la tête d'un programme Soro-Soro que vous avez vendu à la Fondation Chirac. Contre argent sonnant et trébuchant ?
Oh non, pas encore. Non, c'est un programme que j'ai préparé de mon côté, puisque je me disais que pour les prochaines années de ma vie, je voulais faire quelque chose qui me plaise et qui soit utile, pour reprendre le mot du moment. Et donc, voilà, comme les langues sont depuis très longtemps ma marotte, et en particulier les langues menacées, puisque je viens d'une culture et d'une langue menacée moi-même, puisqu'il s'agit du breton, j'ai monté ce projet sur papier et ensuite j'ai cherché preneur, cherché des mécènes, et ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval évidemment, mais ça a trouvé preneur à la future Fondation Chirac, puisque c'était l'année dernière.
Votre goût des métaphores paysannes devait vous attirer les faveurs de l'ancien président. Et alors vous avez rencontré, à la faveur du programme Soro Soro, un autre exemple de reconversion. Colette Greenwald a quitté avec armes et bagages Nanterre en 1968 pour s'installer aux États-Unis. Vous ne vous appeliez pas, quand vous étiez une linguiste très connue aux États-Unis, spécialiste des langues amérindiennes, vous ne vous appeliez pas Colette Greenwald.
Non, j'étais Colette Craig.
Et vous êtes revenue en France. Et vous voilà maintenant, après une reconversion réussie, professeur de classe exceptionnelle, détaché à l'Institut universitaire de France, une des animatrices d'un laboratoire à Lyon 2 qui s'appelle Dynamique du langage. Vous avez refait plusieurs fois votre vie aussi.
Oui, oui, oui.
Alors c'est donc avec ces deux aventurières que nous allons aborder notre sujet.
Ça vous va bien,
aventurière, Rosane Miline. Les Bretons du bout du monde.
Exactement, hein, les Bretons voyageurs.
On peut présenter, Anne-Claire Lenné est une Bretonne de l'équipe aussi, on peut présenter la dynamique des langues comme une cybernétique, ce que fait un linguiste comme Louis-Jean Calvet, il dit, il y a un modèle gravitationnel, et puis les langues se retrouvent dans des situations de niche elles sont définies par leur fonction dans un milieu et elles peuvent être accrochées par une autre langue qui les décroche de leur niche. Il y a un certain nombre de linguistes, on recevait à Saint-Malo il n'y a pas longtemps Thierry Bizot qui dit ça, Anne-Claire.
Oui, en fait, il dit... En fait, lui, il est sociolinguiste de formation et il revient sur le fait que la langue, c'est aussi l'expression d'une culture et que c'est important de la mettre en situation. La langue n'existe pas sans l'aspect relationnel qu'elle implique. Et peut-être... voilà ce qu'il dit.
La langue n'est pas faite... on va s'adresser à une linguiste qui n'est pas sociolinguiste. La langue n'est pas faite pour des linguistes qui s'adressent à d'autres linguistes ou pour des grammairiens qui s'adressent à d'autres grammairiens. La langue, elle est ce qu'en font, imaginant ses fonctions, les individus, Colette Greenwald.
Oui, oui, la langue est pour s'exprimer, la langue est pour être quelqu'un, c'est une identité.
Parce que là, vous commencez déjà à réifier la langue, vous voyez, une identité. On va peut-être vous reprocher... d'avoir un modèle non pas cybernétique mais arithmétique de compter les inhumations, les funérailles, les pierres tombales dans les cimetières et de présenter le monde des langues comme étant fait d'individus, enfin d'objets condamnés pour une très grande partie d'entre elles à la disparition. Il y a comme une sorte de modèle non négatif que certains d'entre vous mettent en avant. Il y avait infiniment plus de langues autrefois. L'accélération de la disparition des langues depuis 200 ans ne fait que croître et enlaidir. Non ? C'est pas votre modèle. C'est pas un modèle de cimetière.
Non, pas du tout. Les langues, c'est l'expression de l'être. C'est ce que parle la maman à son enfant. C'est comment apprendre la vie à travers les langues, et comme dit Soro Soro, pour que vivent les langues du monde. Ce que les gens n'ont pas l'air d'accepter ou de comprendre, c'est que la langue peut être une langue orale, qui n'a pas justement de forme réifiée, qui n'a pas de livre, qui n'a pas de dictionnaire, qui n'a pas de grammaire sur une bibliothèque, dans une bibliothèque, mais elles sont autant des langues, elles sont très complexes, et on les apprend de parents à enfants.
Alors tout à l'heure on va parler de l'Europe, on va parler des Amérindiens, et il y a juste en face de vous un Africain qui est venu à l'émission hier, il est journaliste dans une radio au Bénin, où il œuvre sous le nom superbe de Sergent Marcus. En Afrique, c'est une des zones de l'Afrique de haute densité linguistique au sud du Sahara. Dans votre pays, il y a quoi, 50 langues qui sont pratiquées, le Bénin?
Oui, depuis quelque temps on note 50, mais quand j'étais encore à l'école, c'était 52 qu'on notait. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux qui disparaissent? La question reste posée.
Mais ceux qui défendent l'idée cybernétique de la grande transformation par la mondialisation des langues disent, en Afrique par exemple, il y a peut-être des langues nouvelles qui se créent au contact, par le frottement avec l'anglais, avec le français. On appelle ça, d'un mot savant, la pidginisation.
Oui, puisque même, je crois, au Cameroun, il y a une langue qu'on appelle le pidgin, et en même temps le camfranglais, donc qui est un mélange de français, d'anglais, et de langue locale, langue nationale du Cameroun. En Côte d'Ivoire, il y a le nouchi, je crois, qui a quand même un peu conquis certaines zones de l'Europe via la musique qu'on connaît, le copé-décalé. Donc cette langue est un autre français qu'on parle en Côte d'Ivoire, mais qui ne respecte aucune norme du français classique ou du français parlé en France. Mais c'est du nouchi, tu entends des mots français, mais ça ne veut pas forcément dire la même chose.
Alors certains disent même que c'est un des avenirs possibles du français.
Oui, c'est des avenirs possibles, mais en même temps, est-ce que les Français de souche sont aussi d'accord que cette transformation de leur langue soit aussi grande et aille aussi vite? Parce que c'est pas évident pour un Français qui arrive à Abidjan de comprendre le nouchi. Donc, est-ce que c'est encore le français? Mais je crois que nous, on a peut-être d'autres situations qui font que nous sommes obligés de ne mélanger que le français à nos langues, parce que vous connaissez le fait historique et tout ça. On ne va pas être passéiste, mais une chose est sûre, c'est que avoir subi la colonisation fait que nous sommes obligés de mélanger français, anglais et nos langues.
Et vous employez le mot français de souche, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Tout à l'heure, Colette Greenwald employait le mot de langue maternelle. En Afrique, par exemple, vous êtes sûr qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont une langue maternelle, dans la mesure où le couple de leurs parents est souvent fait d'un homme et d'une femme d'ethnie différente et de langue différente?
D'une part, oui, mais d'une autre, cet esprit de régionalisme vu sous un angle positif qui existe. Moi, ma langue maternelle, c'est l'Adja. Mes deux parents sont Adja. Mais dans la sphère citadine, à Cotonou, on parle le fon. Donc je suis obligé de parler fon, de parler Adja et de parler une autre langue qui s'appelle le Mina. Donc je crois qu'il y a des langues maternelles. Il y a des langues maternelles, comme le disait madame.
Mais ce que vous décrivez en même temps, c'est une situation, allez, on va employer encore des mots savants, de diglossie ou de triglossie. Souvent même dans les sociétés traditionnelles, ce qu'on n'imagine pas, Colette Greenwald, un paysan, il est obligé, s'il veut se valoriser, pour mieux se marier, pour faire des échanges, de parler plusieurs langues, la langue maternelle et la langue du voisinage.
Oui, enfin, moi je parle de langue maternelle, je continue à répéter que toutes les mères du monde ont le droit de parler leur langue à leurs enfants sans avoir honte, sans avoir peur que ça leur porte préjudice. Je crois au droit de toutes les grands-mères de chanter à leurs enfants sans que les enfants se moquent d'elles ou sans que les enfants sortent de la pièce parce qu'ils trouvent ça ridicule. Et c'est à nous de créer cet espace dans lequel les gens se sentent fiers, sont eux-mêmes et passent ça à leurs enfants. Donc la langue maternelle, c'est la langue de la mère, mais s'il y a deux parents, on a deux langues parentales. C'est simplement que la transmission se fasse naturellement et que tout le monde, tous les citoyens du monde aient le droit à ça.
Alors comment se font les ruptures de transmission? On va prendre deux exemples, l'Europe et les Amérindiens. Colette Greenwald est spécialiste des langue amérindienne, je vois un groupe Mapuche qui tout à l'heure va chanter une chanson dans la langue des Mapuche. Mais commençons par l'Europe. Est-ce que l'Europe, Rosenmilin, c'est, je ne vais pas mettre en cause la fondation Chirac ni les efforts de tous les ex qu'elle réunit, est-ce que c'est l'Europe qui peut mener un mouvement de survie des langues? Parce que s'il y a bien un continent où il y a une certaine simplicité des langues, ou alors un appauvrissement du nombre des langues, c'est bien l'Europe.
Mais cet appauvrissement, il est aussi assez récent. Et vous parliez de rupture de transmission. Je pense qu'on est très bien placé pour en parler, au contraire, puisque cette rupture de transmission, elle s'est effectuée chez nous assez récemment. Et je veux pas parler de moi in extenso, mais je viens de Bretagne. Moi, mes parents ne parlaient pas français avant d'aller à l'école. On leur a tellement donné honte de leur langue que quand ils nous ont appris à parler, à mon frère et à moi, ils nous ont appris à parler en français, qui était en l'occurrence un mauvais français puisqu'ils ne le maîtrisaient pas bien. C'était pour eux une langue apprise et une langue apprise pas très longtemps. Et ils n'étaient bien évidemment pas les seuls dans leur cas puisque c'est toute leur génération, la génération de l'après-guerre, à qui on a tellement donné honte, profondément honte de ce qu'elle était, que imaginez ce que c'est que quand on vous dit tous les jours que vous êtes des ploucs, que ce que vous parlez ça ne compte pas, que ce que vous pensez ça ne compte pas, et que si vous voulez survivre dans le monde moderne, il va falloir que vous parliez la langue du colon, en quelque sorte la langue de l'envahisseur, enfin je sais pas comment l'appeler, mais la langue majoritaire qui vous entoure. Et que dire de tous ces enfants, et c'est pas vieux encore une fois, je vous parle de l'après-guerre, qui étaient encore à cette époque-là frappés quand ils parlaient breton à l'école, jusqu'à ce qu'ils ne s'expriment qu'en français.
Les langues celtiques sont emportées dans un mouvement de disparition depuis pas mal de temps, le cimbrique au XIIe ou au XIIIe siècle, le cornique.
Ah, le cornique vit
au 17e ou au 18e, il vit encore.
Il a été ressuscité. Il y a des gens qui aujourd'hui élèvent leurs enfants en cornique, oui.
Ah oui.
Mais de toutes les langues celtiques, aujourd'hui, il reste l'irlandais, le gaélique en Écosse, donc le gallois, le breton et le cornique. Et celle qui a les plus grandes chances de survie, c'est le gallois, parce qu'ils ont vraiment réussi le passage à la modernité, si je puis dire. Aujourd'hui, la jeunesse continue de parler gallois. Les locuteurs de gallois sont de plus en plus nombreux dans la jeunesse urbaine. Et ils sont toujours aujourd'hui 500 000 à parler gallois. Ils ont enrayé la chute du nombre de locuteurs.
Alors, on dit que les langues celtiques ont reculé parce que le grand mouvement de population qui, grosso modo, allait des steppes vers les océans, les repoussait. Mais pour parler de l'Europe et d'un cas peu connu et que moi j'ignorais complètement, je ne suis pas linguiste, Madame Greenwald, on va aller en Europe centrale. À la frontière tchéco-polonaise, germano-tchéco-polonaise, on va plutôt du côté allemand, au sud de Berlin, pas loin de Dresde. Jean Coudela, ici présent, est professeur de sorabe, de civilisation sorabe, de culture sorabe à l'INALCO. Et alors, pour inaugurer son témoignage, on va entendre, ça arrive parfois... À France Culture, Archives Matinée des Autres 87, du sorabe.
Professeur Schuster Scheutz.
Serbština nie jednotná. Često za vůži se Serbia nemůžu se stvořit politickou a ekonomickou jednotu, nie se tež vůbiva jednotná serbská spisovná reč. Vůžická serbština to se dvě křídlie.
Je suis heureux de vous prendre en défaut, collègue Greenwald. De toute façon, une linguiste, elle arrive à nommer combien de langues? Je ne parle pas des pratiques, hein, mais si on vous faisait nommer des langues, vous arriveriez à 200, 300
des langues. Oui, mais moi, c'est mon métier. Donc oui, je pourrais probablement avoir plusieurs centaines de langues.
Plusieurs centaines de langues. Et le sorabe, vous y auriez pensé spontanément?
Je le savais parce que j'étais à Berlin, parce que j'étais à Hanovre et qu'on en parle là-bas.
Ouais. Et alors, Jean Kudelka, c'est curieux. On dit, la République tchèque, vous êtes aussi traducteur de tchèque, c'est bien le seul pays en Europe ou presque où il n'y a pas de problème de langue minoritaire. En Pologne, à part le yiddish survivant, l'allemand, le lituanien, il paraît qu'il n'y a pas de langue minoritaire. Le sorabe est davantage situé en Allemagne.
Le sorabe est situé uniquement en Allemagne. C'est une langue slave qui linguistiquement se situe entre le tchèque et le polonais et qui est parlée par cette minorité slave qui est fixée en Allemagne, dans ce qui est devenu l'Allemagne, fixée depuis le VIe siècle de notre ère, dans une région qui a ensuite été incorporée à l'Empire franc, puis à diverses formations politiques allemandes. Donc les sorabes se sont trouvés très tôt, à partir du 8e, 9e siècle, c'est-à-dire de deux siècles après leur arrivée dans les plaines d'Europe, face à un danger politique qui était l'Empire franc, puis ensuite les empires allemands. Et le sorabe s'est trouvé constamment bridé par des formations politiques allemandes. La conquête franque a transformé ces Slaves en Serbes, a asservi, d'où le terme de Slave qui a pris le sens d'esclave dans toutes les langues d'Europe occidentale.
Alors vous décrivez, Rosane Méline et vous, des processus d'asservissement. La Bretonne, qui est Rosane Méline, a osé parler de colonisation, d'invasion. Mais enfin, c'est parce qu'on est dans un état d'insécurité qu'on cesse de parler une langue. L'insécurité, c'est pas seulement la domination politique. C'est quoi la peur d'être ridicule ou simplement c'est le fait qu'on n'a plus d'interlocuteur à qui parler. La langue a beaucoup moins de fonctions. On est disséminé aussi. On n'a pas de vis-à-vis.
Il y a plusieurs composantes. Il y a d'abord le pouvoir, la pression du pouvoir politique qui s'est exercée dans le passé contre les Sorabes par l'interdiction de parler Sorabe, exactement comme ça a été le cas chez les Bretons. La situation des Sorabes étant très comparable à celle des Bretons dans l'histoire de l'Allemagne par rapport à l'histoire de la France. C'est-à-dire l'interdiction, par exemple, de parler Sorabe devant un tribunal dès l'instant où on savait quelques mots d'allemand, on devait s'exprimer en allemand, l'interdiction de se marier si l'on ne pouvait pas le faire en allemand, etc. L'interdiction d'entrer dans des corporations, non seulement si l'on ne parlait pas Sorabe, mais si l'on n'était pas d'origine Sorabe. Et ces interdictions remontent au XIIIe et XIVe siècle.
Déjà. Oui, mais Colette Greenwald... Comment on peut trouver encore un intérêt à parler une langue comme celle-ci en voie de disparition? Parce que les interlocuteurs manquent, les mots manquent aussi pour désigner les innovations, pour nommer les complexités nouvelles.
Je suis étonnée par cette question de comment peut-on trouver un intérêt. Je vais le redire. La maman, elle parle à son enfant. La grand-mère, elle a des histoires à raconter. C'est là que ça commence. Et elles ne le font plus quand on leur fait honte, quand on les convainc que c'est pas bon pour les enfants. Les langues vivent dans la vie quotidienne. Et c'est un problème de pression qui vient de l'extérieur, qui convainc les gens que ça n'est pas bien, que ça n'est pas beau, que c'est des dialectes, c'est des patois. Et derrière tout ça, la croyance des gens qui sont locuteurs de langues dominantes et qui sont monolingues, qu'on ne peut pas être très intelligent, on ne peut pas être éduqué si on ne parle pas la langue dominante qui a été travaillée, qui est enseignée à l'école.
Alors justement, quittons la chambre d'enfant avec la maman et la grand-maman. C'est avec la question de la scolarisation que la transmission se rompt.
Non, la transmission se fait dans la plupart des populations du monde oralement, absolument sans intervention d'une éducation formelle. C'est aussi une vue de notre monde que si la langue n'est pas écrite, c'est pas une langue. Si elle n'a pas des grammaires et des dictionnaires, elle ne peut pas être très sophistiquée et elle ne vaut pas la peine d'être enseignée. Mais n'importe quelle langue, c'est notre travail de linguiste de terrain, peut être écrite et on peut en démontrer et en décrire la grammaire.
Et d'ailleurs, ce sont souvent les langues isolées qui sont les plus complexes, en fait. Non, à cause pas de leur isolement, non?
Non, pas forcément.
Le sorabe, c'est pas très complexe?
Oui, c'est une langue très archaïque et il est certain que l'état d'apartheid dans lequel on maintient un peuple contribue au maintien des archaïsmes de la langue et contribue d'une certaine manière à conserver cette langue dans la mesure où, je voudrais souligner ce qu'a dit ma collègue, la langue, c'est la langue de la mère, c'est-à-dire la langue de l'affection, c'est-à-dire de l'affectivité. Et c'est cette affectivité qui soutient, et qui exprime et qui soutient l'identité.
Oui, d'accord, mais comment une langue isolée, une langue mal transmise va-t-elle rendre compte de l'innovation, de la complexification du monde? Parce qu'on va rencontrer davantage de monde que sa maman et sa grand-maman.
Je reprends
regardez,
le
Rosanne
terme.
Regardez, Rosanne Milin circule dans le monde entier alors qu'elle est née dans la plouquerie bretonne, nous disait-elle.
Je reprends
hors
le terme de complexité. Les langues sont toutes également complexes. Ce sont les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas les langues qui vont penser que ce sont des petits patois, des dialectes où on ne peut pas s'exprimer. Non, les Amérindiens, les Amazoniens, je vous assure, ont des grammaires extrêmement compliquées, parlent de choses dont on ne parle pas, voient le monde comme on ne le voit pas et ont des grammaires extrêmement compliquées. Donc toutes les langues ont des grammaires compliquées. Et je veux revenir sur la notion d'archaïsme, comme s'il y avait des langues primitives, vieilles, archaïques. L'indo-européen tel qu'il est reconstruit est aussi complexe. La complexité a été la même depuis des milliers d'années.
Non mais ce que je voulais dire en me faisant l'avocat du diable, c'est qu'il n'est pas sûr que toutes les langues soient égales.
Si, monsieur, toutes les langues sont cognitivement, humainement égales. Et quand les Européens disent qu'il n'y a que 300 mots dans la langue, ils ne montrent que leur ignorance totale des milliers de mots, parce qu'ils demandent comment on dit un hamburger et comment on dit une fourchette. On ne demanderait pas ça, on ne demande pas ça à un Amazonien. De même que dans l'autre sens, il ne va pas, les langues européennes sont très pauvres dans certains domaines. Les langues sont adaptées à leur environnement.
Si je suis l'avocat du diable, vous allez vous faire l'avocate de Jacques Chirac, Rosane Miline. Je sens que à la Fondation Chirac, il y a un raisonnement qui consiste à dire la diversité des langues, c'est la même chose que la biodiversité. Et il y a même des gens malins qui font des cartes et qui prouve que ce sont les zones de plus haute densité linguistique, l'Asie du Sud, l'Océanie, le sud de l'Afrique dont on parlait avec Sergent Marcus, qui sont les zones de plus grande biodiversité. Il y aurait une sorte d'équivalence. Et si on perd les langues, on ne saura plus nommer les poissons, la faune, la flore qui peuvent nous nourrir.
Ah, certainement. Enfin, quand Colette parlait de ces populations amérindiennes, quand elle parlait des richesses qu'elles ont et que les Occidentaux ou les Européens n'ont pas dans leur langue, ils ont cette richesse de nommer une faune et une flore que nous ne connaissons pas. Il y a des centaines de plantes, des centaines d'animaux que nous ne connaissons pas autrement que dans des langues indigènes. Donc ça, c'est une perte de richesse pour l'ensemble de l'humanité si on perd ça. Mais au-delà de ça, si vous parlez cartographie, vous faites écho certainement à ce que Colette passe son temps à répéter. Elle a à votre disposition des cartes qui montrent très précisément, en les superposant, que la diversité culturelle et la biodiversité sont une sorte de calque exact. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'ailleurs de diversité bioculturelle, puisqu'il relie donc la diversité biologique et la diversité culturelle.
Donc il y a une écologie des langues qui appartient à l'écologie en général. C'est ce que nous disent nos deux invités ce soir. Et l'une d'entre elles, Colette Greenwald, est l'une spécialiste des Amérindiens. Alors on va ouvrir la partie amérindienne. Alors ici, nous avons un groupe à Yekautun qui est avec nous, avec toute la famille Antiao ou presque, Marie-Pierre, Eladio, Alicia. Mais je vais donner la parole à quelqu'un qui est tout à fait compétent pour parler des Mapuches du Chili et d'Argentine. Un, Olivier ne parle pas un mot d'espagnol.
Non, je ne parle pas du tout espagnol.
Et alors, vous comptez chanter maintenant avec vos camarades en Mapudungun et vous ne parlez pas non plus la langue des Mapuches.
Non, mais en fait, on apprend en fait la langue grâce en fait au livre en fait ou vestige et l'échange qu'il peut y avoir en fait avec le parent comme vous l'expliquiez précédemment. Donc c'est ce que a transmis sa mère et qui lui reste et qui permet de créer des chansons encore en Mapudungun.
Alors ça, c'est une création récente. Bonjour, bienvenue avec Ayekantum qui est écouté avec beaucoup d'attention par Oscar, le patron d'El Sur, qui va nous dire qu'il a du sang Mapuche dans les veines.
Pele, 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 pele
Le groupe Aye Kuntun. Dites, Colette Greenwald, ils sont talentueux, mais je ne sais pas si le choix du Mapudungun, c'est un très bon choix pour parler des lois, des langues menacées. Ce n'est pas une langue menacée.
Ce n'est pas une langue aussi menacée que les autres.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une langue menacée? Il y a des seuils, il y a des chiffres.
Oui. Les linguistes se sont munis de critères. Un groupe d'experts de linguistes en 2003 ont présenté une étude à l'UNESCO et maintenant l'UNESCO distribue des questionnaires pour qu'on puisse évaluer la vitalité des langues. Et les facteurs incluent le nombre absolu de locuteurs, le taux de locuteurs dans une population, parce qu'il y a 10% de locuteurs, 30% de locuteurs, leur âge, est-ce que vous avez 1% et ils ont plus de 85 ans, ou est-ce que vous avez 20% mais ils ont plus de 60 ans? Et puis le taux de transmission, combien d'enfants, quelle est la proportion d'enfants qui parlent la langue? Si vous avez une population où les plus jeunes locuteurs ont 20 ans, vous pouvez calculer que d'ici 50-80 ans, il n'y aura plus de langue. Parce que c'est les jeunes de 15 ans, quand ils se marieront, ne passeront pas la langue à leurs enfants. Donc ce sont des langues qui peuvent avoir des millions de locuteurs, mais si vous regardez les enfants aujourd'hui, ce sont les futurs parents. Si vous voyez que les enfants, les jeunes de 20 ans ne parlent pas la langue, attendez 50 ans et il n'y aura plus de langue.
Alors, sur les populations amérindiennes, on va peut-être braquer maintenant le projecteur sur le Canada, parce que Valérie Beaumont, qui a préparé cette émission, régulièrement, tous les matins, se regarde dans la glace et nous racontait ça à Tourouvre dans le Perche pour voir si elle a des traits autochtones. Alors nous allons prendre l'exemple de la langue innu, mais peut-être avez-vous un petit panorama de ce qui se passe au Québec, Valérie, adressé d'abord.
Il y a plusieurs communautés autochtones au Québec. Il y en a qui sont plus, disons, menacées que d'autres. Il y a le Mohawk qui semble revivre avec des cours pour les très jeunes enfants. Il y a également, j'ai parlé avec, il s'appelle Peter Austin, le linguiste qui était à l'inauguration de la Fondation Chirac hier et qui me disait qu'il était au courant de ce programme aussi de petits livres pour les enfants innu. À ne pas confondre avec Inuit, les Inuits sont des Algonquins, ce qu'on appelle les montagnais.
Et ils ont du matériel scolaire pour les très jeunes enfants. Le problème, c'est qu'il y a 12 communautés assez réduites, très isolées les unes des autres, et qu'il n'y a pas nécessairement une uniformité et un consensus quant à la façon d'enseigner la langue. Donc,
alors, on va rester sur la ligne de ce que disait tout à l'heure Colin Greenwald, en reprenant ce que vous dites des histoires qu'il faudra raconter. Alors, la transmission doit se faire sous forme d'histoire. Alors, en voici une, en innu.
Kwe kwa tu, papa omuteu, siwe no, tek, ewe wa abmat maskwa, mo ohano, wihatamana. Tan pati, tihu yehmo itendo, tatrui kanabwa siwe no, no mat.
Ce qui en substance signifie.
C'est un conte pour enfants qui est illustré par des enfants, c'est sur Internet, et puis ça se raconte en gros l'histoire d'un carcajou. Un carcajou qui est une bête dont on a peur. Et même nous, moi j'avais peur quand j'étais jeune dans la forêt de rencontrer des carcajous parce qu'ils dévorent tout. Et puis c'est l'histoire d'un carcajou qui veut manger un petit ourson noir qui est bien gras.
Et maintenant, plus moderne, une chanson que vous nous avez choisie en innu par une chanteuse québécoise.
En fait, c'est pas en innu, c'est que elle dresse une liste des noms de villes québécoises qui sont des noms autochtones. Et
il y en a beaucoup. Alors, transmettre les histoires, garder les noms des lieux, parce qu'on les voit disparaître partout, les noms de lieux dits sous l'urbanisation.
Quaticook, Mazaklan, Manitou, Megantic. Manouan, Ivoujivik, Maskouche, Maniwaki. Saskatchewan, Shipshop, Matawan, Windigo. Kamouraska, Temiskaming, Kopan, Shibugamo.
Je voudrais reprendre cette idée que c'est sur Internet. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle, c'est que toutes ces communautés autour du monde ont de plus en plus accès à Internet. Et les gens qui sont isolés utilisent Internet. Les Cris du Canada ont un site de leur langue qui est extraordinaire. Les gens vont à l'école, ils sont éduqués et ils communiquent entre eux à travers l'Internet. Moi, je travaille en Amérique centrale avec les Rama du Nicaragua et nous sommes en train de faire un dictionnaire en ligne qui permet à plusieurs linguistes et anthropologues de travailler depuis le Nicaragua, Los Angeles ou la France, mais qui va permettre aux Indiens de pouvoir lire le dictionnaire, nous envoyer de l'information et on va le remettre dans le dictionnaire.
Donc bon, les nouvelles technologies. Là, pour cet exemple, elle fait des dénégations du doigt en disant qu'elle parle moins bien le français que le Rama, Maristella du Nicaragua.
Maristella Kaufman.
Comment en est-on arrivé d'ailleurs à développer ce programme, ces suites à la guerre civile au Nicaragua entre Contra et Sandiniste?
Non. Et Colette Grineval est arrivée au Nicaragua vers les 95. Et après ça, elle est restée en contact. Elle a connu le peuple Ram qui a demandé de l'aider à parler, à connaître sa langue. C'est sur la demande de la communauté Ram qu'il a commencé à travailler. Et elle a eu le support et l'approuvement du gouvernement pour le faire. Et après ça, elle a continué à travailler jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons, grâce à son travail de la communauté Rama qui s'occupe de la toponyme de son territoire. C'est un territoire qui est en danger et ils sont mis à nommer les places sur la carte. Alors, ils sont eux qui connaissent comment s'appelle les places. Et nous prenons sa connaissance, on l'organise sur les archives, archivages, et dans ces projets concrètement, on travaille avec SOAS. Et Valérie a mentionné le directeur de SOAS, et Dr. Peter Austin in London.
Dites-moi, le net très bien, mais Rosane Milling, quand la population a une langue orale.
Ah oui, c'est plus difficile quand on n'a pas accès, quand on n'a pas l'électricité, quand on n'a pas accès à Internet, c'est
oui,
sûr.
Oui, puis quand la langue est orale, n'est pas écrite.
Ben, y a des sons sur Internet.
Oui, oui.
Ben, quand même, ce qu'on a entendu là, c'était sur Internet.
Oui.
C'est des sons. C'est des sons, ça peut être des images aussi, enfin c'est... Non, ce qui est plus compliqué, c'est pour toutes les populations qui sont vraiment dans des zones où il n'y a pas l'électricité, où on n'a pas accès à toutes ces techniques-là.
Mais à la Fondation Chirac, dont vous laissiez entendre qu'elle n'était pas dotée de moyens gigantesques, qu'est-ce que vous allez faire? Des banques de données pour le net?
Ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est travailler avec les linguistes, non seulement français, mais anglais, américain, etc. Et surtout aussi avec des linguistes autochtones, pour travailler avec eux sur le terrain, c'est-à-dire apporter un complément audiovisuel au travail de collecte qu'ils font et au travail de documentation. C'est-à-dire aller sur le terrain avec eux, envoyer caméraman, preneur de son, pour mettre en boîte, pour la postérité, tout ce que ces langues peuvent véhiculer d'histoire, de connaissances, de savoir, et de sécuriser tout ça, d'en faire une banque de données, comme vous dites, de les numériser, de les archiver, de les stocker et de les mettre à disposition non seulement des chercheurs, mais aussi des communautés, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'aller dans les communautés, de leur prendre leur substantifique moelle et de s'en aller après pour ne plus jamais y revenir. L'idée, c'est aussi de leur rendre ce qu'on leur aura emprunté et d'utiliser ces données, s'ils le souhaitent, bien sûr, à des fins qui leur appartiennent, et en particulier dans l'éducation, puisque c'est un thème qui nous est très cher. On sait que d'éduquer et d'alphabétiser des enfants ou des adultes, d'ailleurs, dans leur langue maternelle est infiniment plus efficace que d'imposer une langue seconde pour leur apprendre à lire et à écrire. Donc, il y a des expériences qui ont été menées et des études un peu partout dans le monde, et elles montrent tout ça de façon très claire.
Tenez, je vais faire intervenir quelqu'un qu'on n'entend pas souvent, parce qu'elle ne vient pas souvent, mais c'est dommage parce qu'elle a la voix d'Arletty. Il faut qu'on fasse aussi entendre les accents disparus dans cette émission. Mais là, c'est de la Norvège et de ceux qu'on appelait autrefois les Lapons que vous voulez nous entretenir, chère madame.
Mais premièrement, je suis très impressionnée de parler après des linguistes, parce que moi, je suis juste une aventurière voyageuse.
Enfin, Rosane Milling n'est pas linguiste, c'est juste une aventurière des images.
Et donc, dans un voyage en Norvège, il y a 2 ans, avec l'express côtier, j'ai connu ce qu'étaient les Lapons. Ne voulaient plus qu'on les appelle Lapons, ils veulent porter le nom de Sama, c'est leur vrai nom, et ils veulent absolument avoir leurs écoles, que leur langue soit une langue reconnue, qu'ils ont, paraît-il, une littérature, enfin, ils ont tout ce qui constitue une langue.
Alors, comment ça se passe dans les écoles, d'après ce que vous avez vu de loin?
Non, alors tout ce que je peux vous dire, parce que j'ai pas vu leurs écoles, tout ce que je peux vous dire, c'est que le Sama que j'ai vu à l'endroit où on faisait visiter, parce qu'évidemment, quand on prend l'express côtier, quand on sort de l'express côtier, on est avec une horde de bonnes gens pour aller voir quelque chose. Moi, après, j'ai voyagé toute seule, c'était différent, mais à l'intérieur. Alors, précisément, j'ai vu donc un Sama, donc un ex-Lapon, et il avait un renne en laisse, un gros renne, bon, parce que c'est la civilisation du renne, d'abord. Bon, et je lui ai demandé en anglais si c'était un mâle ou une femelle, et il m'a répondu en anglais de mettre la main en dessous. Alors, vous voyez que les Sama, ils sont polyglottes, et j'ai vu que c'était un mâle.
D'accord, oui. Colette Greenwald. J'ai bien compris le sens de cette histoire traditionnelle, mais...
J'ai une histoire, Samy.
Oui.
Parce que les Ramas du Nicaragua, sur la côte des Caraïbes du Nicaragua, ont été aidés par un projet de l'université de Tromsø en Norvège. Et l'un des linguistes principaux de cette, de ce programme était un Sami, est un Sami. C'est un grand poète Sami. Il s'appelle Harold Gaski. Et il lisait des poèmes Sami au milieu du Nicaragua. Et une volontaire Sami, qui est en fait finlandaise, Miss Juliana, a passé plusieurs années sur l'île à enseigner la méthode d'enseignement Total Response, vous savez, où on bouge, on fait les gestes. Et donc c'est une Sami de Scandinavie qui a enseigné à la vieille dame Miss Nora du Nicaragua comment enseigner sa langue aux enfants. Parce que c'est une méthode qu'elle avait apprise du haut de la Scandinavie. Alors, il y a Internet et il y a une solidarité entre les autochtones.
Comment peut s'organiser l'enseignement de ces langues minoritaires? Je vois bien chez les Lapons, encore qu'avec l'anglais, on peut faire des travaux pratiques très précis. Mais enfin, je vois bien l'intérêt. Allez, on va prendre un autre exemple chez les Amérindiens. Nous sommes ici au Paraguay. Glernéné est allé au Paraguay il y a quelque temps. Nous a raconté au moment de la présidentielle que le Guarani était langue officielle là-bas et était extrêmement pratiqué. Mais il y a aussi des situations minoritaires, par exemple.
Par exemple, là, dans le cas des Indiens Ayoré, dont on compte environ 2000 locuteurs au Paraguay. Donc c'est une ethnie indienne qu'on retrouve. On retrouve également la langue ayurée, en tout cas en Bolivie. Il y a à peu près 2000 locuteurs. Et j'ai rencontré donc l'anthropologue Salvatore Donofrio qui m'a un petit peu parlé de cette langue. Et justement, vous parliez tout à l'heure d'Internet, mais lui, il mettait aussi l'accent sur l'accès aux médias de ces populations indiennes. Et cet accès pose problème parce que c'est aussi un moyen pour eux d'avoir accès à l'espagnol, enfin au castillan, et de perdre aussi, pour se connecter au monde, il faut connaître le castillan. Et ça amène aussi une perte de la langue maternelle.
Ici, c'était un vieux monsieur qui parle, puis chante, et pareil, on essaiera de réfléchir à ce qu'on peut faire pour l'enseignement, pour les plus jeunes, d'une langue qui a gardé 4 ou 5 000 locuteurs. Colette Grenval connaît bien cette langue. Alors, voilà un cas précis. On fait l'effort d'enseigner en Guarani. Je crois que c'est le seul pays d'Amérique latine où une langue indigène est un tel statut, le Paraguay. Mais une langue de 4500 locuteurs, en plus divisée entre deux pays, comment l'enseignement peut-il s'organiser?
Attendez, je reviens en arrière sur le Guarani. C'est un phénomène extraordinaire en Amérique. C'est une langue indigène qui est maintenant apprise, qui est parlée par des métis, par des blancs. C'est le seul cas en Amérique où une langue est officielle, une langue amérindienne est devenue la langue du pays.
Avec mais ne va-t-elle pas phagocyter une langue plus faible, justement?
Oui, bon, il y a des langues, il y a des latins et du romain partout en Amérique. Le quechua a phagocyté beaucoup de langues, l'aztèque a phagocyté beaucoup de langues, exactement comme le latin a phagocyté beaucoup de langues. C'est la même chose un peu partout, le swahili phagocyte beaucoup de langues. Ce que je voulais dire sur le guarani, parce qu'on en a parlé de ce phénomène, le guarani est parlé effectivement par des millions de locuteurs, et par des blancs, c'est ça ce qui est intéressant. Le Guarani est l'emblème national de ce pays. Les gens en Amérique latine se ressemblent. Ce pays est très petit et moi, ils me disent, on n'a pas de montagne, on n'a pas de grande rivière, on n'a rien de spécial dans notre histoire, mais on parle le Guarani.
Oui, mais l'Ayoréo.
Et alors l'Ayoréo, c'est une langue minoritaire.
Ou à l'ombre du Guarani.
Eh bien oui, c'est un petit groupe qui parle l'ayoréo et qui peut avoir recevoir le soutien de linguistes qui vont fixer la langue.
Et on peut enseigner dans des écoles.
Mais oui, pourquoi pas. On peut d'abord parce qu'on peut l'enseigner oralement. On peut simplement se tenir devant les enfants et parler la langue et le faire d'une façon naturelle, d'une façon ludique, pour que ça devienne un mode de communication. Et puis, on n'a pas besoin de l'écrit pour enseigner une langue. C'est à des niveaux plus avancés ou pour d'autres buts.
Encore faut-il qu'ils restent groupés, qu'elles restent groupées, les familles qui parlent ayoréo. Imaginez qu'avec les bouleversements du Paraguay, on parlait au moment de la présidentielle des déplacements des cultures, des grandes transformations économiques, les populations essaiment.
Mais c'est la situation naturelle. En Amérique latine et en Amazonie, ce sont de très petits groupes. Ce sont des groupes entre 30 et 60 personnes. Quand le groupe commence à devenir trop grand, parce que pour vivre dans l'Amazonie, il faut beaucoup de territoire, il faut se déplacer. Les familles n'ont pas plus de un ou deux enfants, parce qu'il faut qu'ils marchent dans la forêt, il faut que la mère porte l'enfant. Et ce sont des petits groupes. Et dès qu'ils arrivent à 60, 80, ils se redivisent. Donc l'essence même des populations qui parlent des langues sont des petites populations. En Amazonie, c'est 150, 300 au maximum, dans des clans de 30 ou 60. Une langue peut vivre avec juste une famille. Une famille peut maintenir une langue. On n'a pas besoin d'une énorme population pour avoir une langue.
Alors la transmission par la famille, par l'école, on va continuer à prendre d'autres cas. Le sorabe du professeur Kudela, l'enseignement du sorabe. Je ne parle pas de l'INALCO où vous œuvrez.
L'enseignement sorabe a été mis sur pied sur le plan institutionnel à l'époque de la RDA et il a été conservé par la République fédérale. Il consiste en deux types d'écoles. L'école, en gros, je résume, l'école A où l'on enseigne le sorabe, en sorabe, les matières sciences humaines jusqu'à l'équivalent de classe de 5e, puis ensuite les sciences en allemand, et les écoles et l'école B où le sorabe est la première langue étrangère obligatoire. Mais devant l'effritement de la langue sorabe, en particulier en Basse-Lusace, où la pression historique de la Prusse a été beaucoup plus forte que celle de la Saxe, je rappelle que les sorabes se répartissent entre la Saxe et les Länder de Saxe et de Brandebourg, les sorabes ont eu recours à une autre méthode. Ils se sont inspirés de la méthode du Diwan en Bretagne et ont créé ce qu'ils appellent Vitae, c'est-à-dire la méthode par immersion. Et cette méthode rencontre un gros succès en Lusace parce que, par exemple, il y a actuellement environ 500 enfants dans ces écoles qui ont été créées sans beaucoup de moyens, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Et sur ces 500 enfants qui apprennent par immersion le sorabe dans le jardin d'enfants, c'est-à-dire ils apprennent à chanter, à jouer et à parler uniquement en sorabe, il y a à peu près la moitié, entre 40 et 45% d'enfants allemands, parce que le niveau est très bon et les parents allemands envoient également leurs enfants. Pourquoi le sorabe? Parce que le sorabe est une marche d'accès aux autres langues slaves, d'être pas proche.
Alors avant que Rosane Méline n'entame sa marche des fiertés, la tentation est trop grande, là, Rosane Méline. On parle de Diwan, de l'enseignement Diwan. Paris. Oui, je sais que je n'ai jamais su le prononcer, mais moi je suis de Saint-Malo.
Vous êtes un monolingue, c'est pour ça.
Voilà. La tentation est trop forte, là. L'enseignement par immersion. Il me semble qu'au temps où le président de la République s'appelait Jacques Chirac, non ? Vous travaillez au programme Soro-Soro de la Fondation Jacques Chirac. On avait dit que l'enseignement par immersion, c'était impossible, c'était contraire aux principes de la République. Il me semble que quand le président Jacques Chirac était en exercice, il était venu en Bretagne en 96, et il avait dit « Vive la langue bretonne », etc. Mais que quand il s'était agi de ratifier la charte européenne, le président s'était avisé, au grand dam du Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, que l'article 2 de la Constitution introduit peu de temps auparavant par Jacques Toubon, rendait impossible la ratification de la charte. Vous devez avoir des conversations, s'il vous entend, passionnées avec le président Chirac sur ces thèmes-là.
Intéressante, effectivement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ça avait été la charte a été signée, mais une signature ne suffisait pas. Il fallait bien entendu passer par une ratification. La ratification elle-même n'était possible que s'il y avait validation par le Conseil constitutionnel, et le président de la République ne pouvait pas ratifier si ce n'était pas validé par le Conseil constitutionnel.
Et le Conseil d'État avait déjà prévenu que le Conseil constitutionnel
serait contre. Et effectivement, cet obstacle demeure, puisqu'à ce jour, on est maintenant en 2008, la Constitution, l'article 2 de la Constitution, celui qui fait obstacle et qui dit que le français est la langue de la République, n'a toujours pas été changé.
Il y a attendez, Nicolas Sarkozy est passé en coup de vent hier à l'inauguration de la Fondation Chirac. Vous n'avez pas eu le temps de lui parler, mais quand même, il y a un certain nombre de députés de la majorité et de députés de gauche. Enfin, ils étaient unanimes à l'Assemblée nationale à vouloir, à la faveur de la transformation de la Constitution, changer l'article 2. Enfin, plutôt...
C'est l'article 1.
Changer maintenant l'article le 1. Alors, c'est pas fait. Le Sénat va peut-être revenir sur la question dans la discussion. Et puis, le vote au Congrès sera ce qu'il sera début juillet. Bon, allez, on laisse les querelles Chiraco, Sarkozyo, franco-françaises un instant. Notre ami Sergent Marcus, l'Africain de l'émission.
Oui, je voudrais très rapidement revenir sur la responsabilité. Puisque là, la Fondation essaye de réparer un peu un tort causé par l'histoire, parce que dans mes recherches, j'ai trouvé que déjà en 1800, il avait été imposé aux Africains la langue française, par exemple, et qu'il était interdit de parler aux élèves, donc par les enseignants, de parler la langue nationale, la langue locale, parce qu'il fallait imposer l'esprit, il fallait imposer la civilisation. Donc, j'espère et je crois que cette initiative de la Fondation entre, bien sûr, dans cette dynamique de restauration.
Mais attendez, réparation, peut-être, mais l'action, c'est mieux que la réparation.
Non, réparation, c'est encore une autre paire de manches. Je préfère qu'on reste dans l'action. Mais je voudrais aussi, très rapidement, dire que l'UNESCO a fait remarquer que les langues les plus menacées de disparition sont bien sûr en Afrique. Mais je constate que nous sommes un peu circonscrits en Europe. Je ne sais pas si je me trompe, mais madame la linguiste va me démentir. Mais je remarque donc que l'Afrique a ses difficultés. Nous, quand nous avons des enfants... Nous avons, en fait, en griffe honte de leur parler la langue nationale parce qu'il faut que les enfants parlent français, il faut qu'ils aillent à l'école, qu'ils grandissent, et c'est le problème chez nous.
Oui, mais enfin, la situation la pire n'est-elle pas celle de l'Océanie, de l'Australie en tout cas? Parce que les Amérindiens du Canada ou des États-Unis, que vous connaissez bien, Colin Greenwald, ils ont été écrasés par des guerres. Enfin, les guerres se faisaient au moins de manière formelle. Il y avait des traités qui n'étaient pas nécessairement respectés. La situation la plus grave n'est-elle pas en Océanie? Ou plutôt en Australie?
La situation d'Australie ressemble beaucoup à la situation d'Amérique. Au point de vue niveau de danger, on parle de 90% des langues de ces continents qui vont disparaître. Au point de vue traitement des populations, jusqu'à récemment, c'était à peu près le même. Mais il y a un renouveau aujourd'hui, il y a une reconnaissance de ces langues. Ce que je voudrais vraiment avoir le temps de dire... C'est que je ne pense pas que la Fondation Chirac, on n'attend pas des fondations qu'elles sauvent les langues. On attend des fondations qu'elles aident à créer les conditions pour que les gens puissent continuer à parler leur langue.
Les langues sont ce qu'en font les individus. On termine avec nos amis d'Aye Kantoum qui ont disposé tous les instruments nécessaires au dernier morceau qui ne sera pas chanté en Mapudungun, mais joué seulement.
Thank you.
peut-être libellée en gaélique. En tout cas, elle traitera de l'Irlande à la veille du référendum sur le traité de Lisbonne. Valérie Beaumont, François Rivalan, Anne-Claire Lenné, Sébastien Vell, Jean-Christophe Francis, Marianne Chasseur, l'équipe de Travaux Publics, et on laisse